On peut carrément parler de chat, hein, si vous voulez.
Là, on parle de chien.
Ah, ah qui veut un chien?
Moi.
Non, on veut, on veut.
Tout. On veut un dedans.
On veut tout.
En fait, que j'habite dans ton immeuble et qu'on prenne un chien.
Un chien en particulier?
Un golden.
Ok.
Oh oui, un golden. Et après, un berger australien. Ouais. Mais okay. Ça, c'est quand on aura la maison.
Quand on aura une
big family. Okay.
Ouais, on veut une maison ensemble.
Oui.
Ok. Coucou guys, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais annoncé en début de saison, à partir de cette année, j'ouvre le champ des invités. En plus des drags que vous pouvez entendre à mon micro, j'ai aussi envie d'entendre d'autres artistes qui incarnent selon moi une forme de flamboyance. Et c'est le cas dans cet épisode qui sera non pas à deux mais à trois voix. En effet, aujourd'hui je reçois deux artistes que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être vu dans la playlist flamboyante que j'ai postée sur Instagram. Il faut venir, hein, vous louper des choses sinon. Il s'agit de Johanna et Chéri. Dans l'épisode, on parle de l'envie de musique, de la question de l'authenticité dans la création et du besoin de lâcher prise. On a parlé de notre rapport à la lumière, on cite Mylène Farmer, Chris et Caroline Polacek, Camp Rock, Rosalia et Lady Gaga. Autant vous dire que le programme est chaud, le programme est bon, alors let's go, ça part. Coucou Chéri.
Coucou.
Coucou Johanna.
Coucou.
Merci d'être là. Comment ça va?
Oh, ah, c'est bien.
Ouais.
C'est le matin, faut leur dire.
Ouais.
C'est pas trop tôt.
C'est tout doux.
Il est super tôt, il est 11h30.
Toujours plus, toi, putain.
C'est quoi votre définition de la pop musique? Et quelle est sa place dans le paysage musical aujourd'hui?
C'est art pop de Lady Gaga, parce que ça vient absolument. Elle a tout foutu dedans et elle a mis tout ce qui, en tout cas, moi, me traverse et me transporte. C'est dire que la pop musique, c'est de l'art contemporain et en faire quelque chose de complètement artistique, que ce soit visuellement,
la performance.
Musicalement, la performance qu'elle a donnée pour présenter cet album, et de la performance aussi physique. Elle a travaillé avec Marina Abramovic, qu'on adore, avec Johanna. C'est pour moi, ça a été le tournant de la pop musique que j'aime, en tout cas. Et la façon dont elle l'a défendue. Elle arrête pas de dire « Ah, pop music is art !»
Mais t'es totalement fan de Lady Gaga?
Non. Si, complètement. Je suis complètement fan de Lady
Gaga. Ouais, vraiment.
Je suis complètement fan de cette Lady Gaga.
Ah, ok.
Celle qui était complètement
plus folle. Trop maintenant.
Elle me parle moins.
Ok.
Mais je l'aime toujours beaucoup et beaucoup d'amour.
Art pop, c'est ton era.
Ouais, grave.
Ok. Et toi, Johanna, Lady Gaga?
Moi, j'adore
fan
Lady
aussi.
Gaga. Genre, j'ai vraiment écouté, depuis que je suis petite, j'écoute, genre, elle fait partie de mon ADN. Vraiment, c'est, pour moi, c'est la queen. Cette meuf, à cette époque-là, c'est vraiment la maîtrise de l'art, quoi.
C'est-à-dire que toutes les couches du millefeuille, je dis toujours que la vie, c'est un millefeuille. Et du coup, toutes les situations, c'est un millefeuille. Toutes les couches du millefeuille ont été travaillées.
Avec conscience.
Avec conscience.
Et il y a aussi une touche de transcendance et de lâcher prise totale. En fait, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est chez Lady Gaga, c'est que c'est pop et que tu peux aussi te dire que c'est lisse et que musicalement peut-être en plus ou plus aujourd'hui peut-être, mais que c'est un peu lissé.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et que c'est voilà, mais en fait j'ai oublié ce que je voulais dire.
Bah, elle est folle alliée, quoi.
Disons qu'elle assume qui elle est et ce qu'elle veut,
ouais,
et ses références, et elle en recrache un truc d'assez universel.
Ouais.
C'est ça la
et
pop, en fait, je crois,
et pas parfait du tout. C'était n'importe quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il faut se battre pour l'imperfection?
Bah, en fait, il faut, pour moi, je pense que c'est surtout savoir lâcher prise tout en maîtrisant. Faire de la pop, c'est pas genre... Enfin, c'est quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de références, et en même temps de sincérité, de travail, de performance physique, de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre...
Ouais.
C'est hyper intense et en même temps, bah, faut savoir aussi genre lâcher prise pour que l'émotion, elle soit transmise au moment de...
Ouais. La perfection, je pense qu'il faut qu'elle soit imparfaite. Faut qu'elle soit genre... pas propre du tout.
Ouais.
En tout cas, Sinon, quelque chose, ça donne quelque chose de trop lisse qui va parler à des gens, qui ne parlera pas à moi en tout cas, mais ouais.
Oui, c'est aseptise, quoi. Mmh. Ouais. Faut pas que ce soit la quête.
Non, pas du tout.
Non. En fait, faut pas consentir que c'est l'objectif,
fou,
quoi.
Enfin, faut être fou. Je pense.
Ok. Mmh.
Ouais.
Et ça va, genre, vous avez de l'aisance à lâcher prise sur ça? Parce que souvent, quand on est sur un projet, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce sujet-là parce que j'ai toujours envie que ce soit parfait ou alors je vais, tu vois, réenregistrer un truc 10 fois, réécrire un mot, parce que t'as toujours l'impression que ça peut être mieux, etc. Alors qu'effectivement, en fait, je crois que plus tu cherches ça, moins t'es authentique, d'ailleurs, au final.
Je pense que ça dépend. Je pense que si tu le fais, c'est qu'il y a une raison.
Oui, il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons.
Genre, si tu le fais, c'est que t'as un truc en tête et que tu voudrais l'atteindre. Mais c'est, je pense qu'objectivement, c'est pas parfait. Enfin, tu vois, genre, mais pour toi, ça l'est. Et c'est comme ça que tu veux que les choses, elles soient reçues. Ouais. Donc c'est important d'écouter cette, tu vois, ce besoin de recommencer jusqu'à ce que ça ressemble à ce que toi tu veux, mais il faut trouver un équilibre entre ça et justement lâcher prise et laisser l'accident et sentir la beauté dans un truc accidentel, tu vois, mais et pas rester avec des œillères sur un objectif. Il faut prendre du recul et je prends aussi du recul avec le micro.
Parce que quelque chose qui est travaillé avec un peu perfectionnisme et perfectionnisme un peu rigide. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme tu voulais que ça se passe, ça sonne faux, ça sonne pas bien et ça sonne.
En vrai, c'est un peu toxique le perfectionnisme parce que, en fait, enfin, moi par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être. Enfin, moi je suis très perfectionniste quand je suis sur scène. Donc dès qu'il y a un truc qui dépasse, genre je me sabote, je me juge, enfin c'est ça, vraiment ça devient folle en fait, enfin et en fait plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir le retour du public où genre en fait tout le monde me dit putain quand il s'est passé ça, particulièrement le moment où j'ai commencé à vriller parce qu'il y avait un truc qui dépassait, les gens ont aimé ce moment. Donc en fait la seule chose que j'avais à faire, c'est de lâcher prise sur la situation. Et non, et en fait c'est là où il faut trouver l'équilibre, c'est que tant que t'as travaillé, que t'as fait le maximum que tu pouvais faire pour que ça ressemble à ce que tu voulais, il y a des choses que tu contrôles pas. Mais en fait, c'est bon, quoi.
Je sais que moi, parfois, quand je sors un épisode de Flamboyante, par exemple, quand je fais lire un texte, etc., ou écouter quelque chose, parce que il y a l'idée, effectivement, quand on crée, qu'on y met son cœur, sa tête, son corps, et qu'on pose un peu un genou à terre, tu vois, envers l'autre qui va recevoir. J'ai toujours un peu peur parfois de le montrer, de le partager, peur de la réaction. Est-ce que vous avez ce ressenti-là quand vous dévoilez un projet, à la fois au moment du processus, quand c'est dévoilé à vos proches ou aux équipes avec qui vous collaborez, jusqu'au public?
Je me sens insécure quand je fais écouter quelque chose où je sais que c'est pas encore là. Justement, on parlait de perfectionnisme, mais c'est pas encore là où ça me touche le plus. Et que peut-être que j'ai pas assez travaillé ça ou ça ou ça. Donc, oui, il y a ça. Après, peut-être qu'il faut aussi parfois garder pour soi et jusqu'à ce que ça soit bon. Enfin, on sente que ça soit bon pour que l'autre soit. En fait, je pense qu'il faut être un peu genre aligné pour se protéger et pas prendre les retours. Comme une vérité.
Est-ce que c'est pas dur parfois, justement, quand la chose te semble vraiment bonne pour toi et qu'elle compte, de la dévoiler au regard de l'autre?
Moi, j'aime bien ça.
Ouais, moi aussi. En fait, moi, je suis. En tout cas, peut-être musicalement. Quoique mes textes aussi. En fait, aujourd'hui, là, je suis tellement sûr de ce que je fais que quand je le fais écouter, j'ai plus peur que la personne aime pas, mais par rapport au fait que c'est pas que ça va couper quelque chose entre nous, c'est juste que du coup je vais me dire, par exemple quelqu'un de mon équipe qui va pas aimer la musique que là je suis en train de faire pour mon album et dont je suis certain, je serais un peu genre mais du coup comment est-ce qu'on va la défendre ensemble, parce que moi je suis sûr que c'est cette musique.
Mais souvent, au bout d'un moment, ils aiment après.
Oui.
En vrai.
Il faut continuer.
Il faut juste peut-être savoir pourquoi ils n'ont pas aimé. Et peut-être, si ça se trouve, c'est un truc qui est vraiment pertinent.
Ouais. Mais ça, tu vois, rétrospectivement, du coup, ça me fait poser la question. Et je sais qu'avant, ça me stressait beaucoup, ça et en fait maintenant je suis tellement sûre de ce que je fais, alors qu'avant non, et je faisais pas ce que je voulais faire.
C'est ça, c'est
un peu le thermomètre
ça.
De où tu te situes dans ta création, dans ton art, et comment tu te sens, quoi.
En fait, si t'es aligné, c'est bon, y a pas besoin, y a la peur, elle devient pas plus grosse que toi, quoi. Mais quand t'es insécure parce que tu sais qu'au fond t'as pas fait vraiment ce que tu voulais, genre c'est la peur qui prend le dessus. C'est toujours comme ça.
Et la réception du public, pareil, il y a plus d'attente. Le projet, il est fait, il est fini. Pour vous, c'est juste une délivrance.
Ouais.
Ouais. Après, il y a un espoir que du coup, ça va être bien reçu. Ouais.
Mais ça ne définit pas ce que tu penses de ton projet ou ta création, quoi.
Non.
Non, c'est juste qu'après, c'est des projets qu'on aimerait voir vivre d'une certaine façon.
Ouais, et prendre de l'ampleur. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, est-ce que certaines de vos chansons, pour ce qu'elles représentent, sont difficiles à interpréter ou même à entendre, de par l'émotion qu'elles vous procurent, du souvenir qu'elles évoquent?
Ça dépend qui est dans la salle.
Je pense qu'il y a des moments où tu retombes un peu. Je rejoins ce que tu dis. Les chansons changent de visage, ça c'est sûr. Et il y a des moments où, par exemple, la première fois que j'ai chanté Ce n'est pas si grave, sur scène, c'était à la maroquinerie. En fait, j'ai réalisé la gravité de ce que j'étais en train de dire parce que j'étais devant des gens et que les gens, du coup, j'ai senti que ça les traversait. Et la manière dont ça les a traversés, ça m'a permis de me rendre compte à quel point vivre ça, c'est... En fait, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais pas conscience de ce que j'avais écrit et de ce que j'avais vécu jusqu'à ce que je le dise sur scène.
Oui, et là, tu vois que les mots n'appartiennent plus qu'à toi et qu'ils résonnent dans les gens aussi qui sont autour.
Et en fait, parfois, la réaction des gens, ça permet de te rendre compte de ce que t'es en train, enfin, de ce que t'as fait, de ce que t'as écrit, de ce que t'as créé, quoi. Je sais pas du tout c'est la question, mais...
Non, si c'est sublime. Johanna, dans ton album Raise the Light, ton album, il est décrit comme un diptyque entre les ténèbres et la splendeur. Moi, à l'écoute, je le perçois un peu comme une quête de vie. Je le trouve hyper ancré, à la fois très poétique et sincère, et parfois même dur, dans une démarche un peu de libérer le vécu, pour, je crois, porter un peu le sentiment au plus haut. Et j'y vois aussi une dimension un peu spirituelle. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi ton rapport avec la lumière?
Waouh.
Il est 11h50.
Ouais. Mon rapport avec la lumière, il est... je sais pas trop, parce que j'ai l'impression d'avoir... j'ai l'impression qu'il y a de la... En fait, comment dire? J'ai l'impression que dans un corps et un esprit, il y a plein d'endroits où il y a de la lumière doit être allumée, et j'ai l'impression d'avoir des endroits qui sont encore éteints et d'autres qui sont très très allumés. Par exemple, mon rapport à, enfin, quand j'écoute de la musique ou quand je fais quelque chose de créatif, quand je passe du temps avec mes amis, les gens que j'aime, quand j'aide les gens, ou quand c'est souvent autour de des choses autour de l'amour et de la créativité. Là, j'ai l'impression d'avoir plein de lumière. Mais par exemple, l'amour que je peux me porter à moi-même, des endroits qui sont un peu genre l'enfance ou les souvenirs, tout ça. Pour moi, c'est pas encore. Donc, mon rapport à la lumière, je pense qu'il est pas encore équilibré. J'ai l'impression que je cherche encore à allumer quelques endroits, mais pour moi, c'est vraiment vital d'avoir de la lumière en soi et de... Pour moi, la lumière, c'est la conscience, en fait. Ouais. C'est genre, quand t'as conscience de tes actes, de tes choix, de pourquoi tu penses comme ça, pourquoi t'as réfléchi comme ça, pourquoi t'as agi comme ça, et c'est aussi connaître tes traumatismes, et travailler dessus. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, la lumière. Quand tu sais pas pourquoi t'es malheureux, quand tu sais pas quand tu te rends pas compte que quand tu fais ça ou quand tu dis ça à quelqu'un, bah en fait tu lui fais du mal. Enfin, quand tu captes pas ce que tu fais, je pense que là il faut travailler la lumière. Enfin, voilà, je sais pas si c'est un peu perché ce que je dis, mais
non, c'est une question d'émotion, quoi.
C'est imagé,
de ressenti, d'ancrage, de liberté.
Ouais.
Et de soucis de soi et des autres.
Ouais.
La musique pour vous, c'est essentiellement lumineux ou ça peut être douloureux?
Les deux. Ouais. C'est douloureux. Non, je pense que ça rallume un peu la lumière quand même.
Ouais. Quand c'est douloureux, au bout d'un moment, ça devient lumière. De
ouais, c'est
façon,
ça.
Parce que c'est.
Ça traite l'info.
Mais en tout cas, un moment douloureux dans une chanson, ça le guérit, j'ai l'impression.
C'est ça. Ça fait traiter l'information. Ouais. Mais par d'autres chemins qu'un truc terre à terre.
Puis nos chansons, elles changent de visage aussi. Quand, par exemple, moi, j'ai sorti, du coup, maintenant, il y a 2 ans, une chanson qui s'appelle Nobody Loves Me, qui est une chanson qui parle de ma dépression profonde, mais qui a aussi un visage, le visage de quelqu'un qui cristallisait cette dépression. Et c'était une relation que j'ai plus maintenant depuis 4 ans. Cette personne est sortie de ma vie, je la vois plus. Et du coup, c'est plus son visage du tout. Et c'est le visage d'autres personnes, évidemment, qui quand j'écoute la chanson et quand je regarde le texte, ça a pris le visage d'autres personnes qui m'ont fait du mal depuis. Mais c'est aussi plus pour moi une chanson qui parle de cette dépression comme elle en parlait quand je l'ai écrite. C'est une chanson qui parle plutôt pour moi de ma guérison, le fait de la ressortir et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ça cristallise le fait qu'on peut guérir. Donc,
l'art, ça guérit.
C'était beaucoup douloureux. Aujourd'hui, c'est de la lumière pour moi, cette chanson.
Est-ce que faire de la musique, c'est faire l'amour?
Oui.
Oui.
Oui. Grave. En vrai, c'est grave ça. Avec soi-même, peut-être.
On pourrait dire genre... Attends, il y a des gens qui sont mais genre... Tu préfères faire de la musique ou faire l'amour?
Ah ouais. Bah, faire de la musique, du coup.
Moi aussi. En faisant l'amour.
C'est pareil. Never. Ça va ensemble.
Johanna, la musique, c'est arrivé comment dans ta vie?
En vrai, depuis que je suis... Enfin, moi, je suis fille unique. Et en vrai, c'était un peu mon ami, quoi, la musique. Enfin, la musique m'a accompagnée, m'a permis de comprendre plein de choses, de comprendre ce que je ressens au moment de l'adolescence et tout ça. Et j'ai commencé... Enfin, ma mère m'avait inscrite au piano, donc j'ai fait un peu de piano, donc j'ai un peu étudié tout ça. Et à partir de mes... 10 ans, 11 ans, j'avais un rituel où genre presque tous les soirs, je faisais du piano pour... où je racontais ce que j'avais vécu ou ce que j'avais sur le cœur ou même parfois, parce que mon père était malade et j'avais besoin de lui dire des choses que je ressentais et du coup, je lui faisais des chansons. Enfin, je passais vraiment par
des mots.
Ouais, je passais vraiment par les chansons pour exprimer en fait des trucs et parce que
je leur partageais.
Ouais, bon, pour mon père, ouais. Après, les autres chansons, je les gardais un peu pour moi, ou alors, des fois, je faisais des petits concerts à mes parents. Parce qu'ils avaient trop envie d'écouter, et du coup, voilà, mais ouais, j'ai un rapport, enfin, en fait, j'ai toujours un rapport à la musique comme quelque chose qui m'aide, en fait, et qui me guide vers ce qui me fait du bien. Et en fait, après, j'ai une période où, j'ai un peu éteint la lumière partout et j'ai pas fait de musique pendant quelques années. J'étais dans le déni un peu. J'avais plus envie de faire le point avec moi-même avec la musique. Et puis un jour, c'est revenu, j'étais obligée. En fait, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, à un moment donné, il me manquait un truc dans ma vie et j'ai recommencé à faire du piano et après, j'ai commencé à faire des chansons sur des prods, etc. Et puis voilà.
Et toi, chérie, comment c'est venu? J'ai appris un truc un peu fou hier. C'est que t'avais fait le soldat rose.
Ouais.
Non, mais cette info m'a déglingué.
J'avais très envie de chanter. Pas forcément de faire autre chose, quoi.
Ouais.
Je voulais chanter. Je crois que j'avais 8 ans quand j'ai fait ça. Mais en fait, j'étais un enfant assez bizarre. Moi, quand j'étais petit, je parlais pas beaucoup et j'étais que dans la lune. Il fallait vraiment me prendre dans certains moments pour que je sois un peu plus jovial et tout ça. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu envie de chanter. Et du coup, je me souviens je me souviens d'avoir pris mon petit casque avec mon baladeur CD, d'avoir installé délicatement le CD DL5 dedans, et d'être allée chanter une étincelle à mes parents.
Ok.
En leur disant, je veux prendre des cours de chant. Et en fait, j'avais pas du tout à me donner tout ce mal parce que...
Ah, tu leur as fait une démo, quoi.
Ah ouais, ouais.
Voilà pourquoi il faut
que vous... Eux, je pense que vraiment, la seule chose qu'ils attendaient, c'est que justement, je sois... que je propose quelque chose
et en capacité de dire ce que tu veux.
Illuminé aussi et de... Et du coup, ils sont genre, mais bien sûr. Et puis, tu n'avais pas du tout à donner tout ce mal. Tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, ils m'ont inscrit à des cours de chant. Et après, ma prof, on est devenu très proche avec ma prof. Elle a dit à mes parents, mais il y a vraiment quelque chose. Ils chantent vraiment très, très bien. Et donc, elle m'a inscrit aussi à des concours de chant, puis à des orchestres. Donc, en fait, à partir de l'âge de 10 ans, tous les étés, je faisais 30 concerts par mois. Parce que je faisais des orchestres, des cours de chant, tout ça. Et puis un jour, il y avait un directeur de casting dans une salle d'un concours de chant qui allait voir mes parents et qui a dit, oui, on monte Amy Jolie. Et du coup, j'ai passé le casting, j'ai été pris et je suis parti en tournée pendant 3 ans avec Amy Jolie. Dans toute la France, on a fait des salles immenses, c'était un truc de ouf. On a fait le théâtre antique d'Orange, on a fait des trucs de ouf. Et après, Amy Jolie, ça s'est arrêté. Et puis un an plus tard, cette même troupe a monté Le Soldat Rose, la troupe de tournée. Et du coup, je suis entré dans Le Soldat Rose. Et j'ai fait un an de Soldat Rose avec eux. Et après, j'ai arrêté. Et j'ai perdu ma voix.
Oui, ça, c'est une sacrée histoire aussi. C'est que, et c'est un peu fort, parce que, en fait, on t'a décelé un problème aux cordes vocales. Mm. Et les médecins t'ont expliqué que tu pourrais plus chanter.
Ouais, j'ai eu une infection. Et je suis allé voir des phoniatres, plusieurs phoniatres, qui m'ont mis une caméra dans la gorge, c'est très désagréable d'ailleurs. Et oui, on m'a dit que mes cordes vocales étaient beaucoup trop fatiguées, qu'il fallait arrêter de chanter, que ça reviendrait probablement pas, et certains disaient que ça reviendrait pas. Et voilà. Et là, du coup, bah, c'est un peu un coup de massue, parce que moi, depuis mes 10 ans, j'ai une carrière, quoi. Et je sais que... À mes 18 ans, j'attends qu'une chose, c'est d'obtenir mon bac et partir à Paris, faire de la musique ou de la comédie musicale. Le chemin était tracé, quoi. Et d'un coup, bah, à 17 ans, c'est plus ça, ce sera plus ça. Il faut trouver autre chose, quoi.
Et pourtant, t'as continué.
Après.
Ça a venu quand?
Une grosse dépression. Après, il y a du théâtre. J'ai fait du théâtre. Et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Je m'en rends compte sur scène parce que j'ai été au conservatoire du 18e arrondissement et mon prof était l'ancien bras droit du mime Marceau. Il nous a fait beaucoup travailler le corps, la corporalité, le geste, l'importance de tout jusqu'au bout du petit doigt. Mmh. Et puis la musique, ça rentre parce que je suis pas très heureux à faire ce que je fais malgré tout dans le théâtre. Je travaille sur beaucoup, beaucoup de pièces. Je travaille énormément. Mais je parle toujours de cette tristesse dans la douche le matin quand tu es au travail. Je sais pas, on a tous vécu ça, non, quand on a un taf qu'on aime pas trop. Et moi, c'était horrible parce qu'en plus, c'était le théâtre. J'allais pas à l'usine, tu vois. J'allais faire du théâtre et c'est beau, c'est de l'art, mais j'étais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. Et du coup, je suis allé à We Love Green et j'ai vu 1000 artistes s'enchaîner devant moi sur scène. Et je suis genre, mais c'est ça, en fait, je peux pas faire autre chose. C'est ça que je dois faire, quoi. Et donc, j'ai contacté un pote à moi qui faisait de la musique. Je lui ai dit, faut qu'on fasse de la musique ensemble. Je suis allé voir une phoniatre. Cette phoniatre m'a dit, qui vous a dit que vous ne pouviez plus chanter? C'est criminel.
C'est horrible.
Et j'ai repris.
Wow.
Voilà. Mes cordes vocales sont fragiles, mais elles peuvent s'utiliser de la manière dont je les utilise aujourd'hui.
Donc, on parlait du théâtre. Pour toi, Johanna, je crois que tu as fait des études de cinéma.
Yes.
Et ça fait un peu sens parce que c'est hyper cinématographique, je crois, tes productions et ton projet. Est-ce que le cinéma, ça t'inspire dans la conception de tes albums?
Quand je suis entrée en option cinéma, c'était vraiment par curiosité. J'avais pas spécialement de fascination pour le cinéma. Mais j'avais une fascination pour les clips. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai vu plein de films, plein de références, mais j'étais souvent touchée par la composition, la lumière, la composition de l'image, les mouvements de caméra. En fait, je suis plus, Je pense que c'est vraiment le lien entre la musique et l'image qui me passionne plus que le cinéma en soi. Bah, par exemple, je suis pas forcément attirée par les scénarios et tout ça. Enfin voilà, même si je me suis essayée aussi un peu réalisatrice, machin, mais c'est vraiment le lien entre la musique et l'image qui me fait vibrer, quoi.
C'était quoi vos goûts musicaux à l'adolescence? Autre que Lady Gaga, j'entends.
Emo.
Moi, j'étais un scandale.
Pourquoi?
T'es toujours un scandale.
On aime être scandaleux.
Non, Johanna refait ma culture musicale
non.
Grandement. En vrai. Non, en vrai, non. Ça fait un moment que j'écoute des trucs très bien.
Après, on a honte d'aucune référence.
Je n'ai vraiment pas honte d'avoir...
L'étincelle des L5, c'est chambé. Hein.
Oh, c'est chambé. Moi, j'ai été un immense fan de toutes les girlies Disney.
Ok.
Et tard.
Miley Cyrus, Demi Lovato, ouais, Selena Gomez.
Selena, Miley Cyrus.
T'avais une team un peu
BO,
ou...
Toutes les BO de Camp Rock, High School Musical.
Ah, bien sûr, mais j'étais comme toi.
C'est que ça, moi. Bien sûr. C'est que ça.
Camp Rock,
et
c'est
Chasing Card. Juste pour chialer dans la... Vous voyez cette chanson qui est tout le temps dans Grey's Anatomy,
je crois. Oui, je crois, je vois.
268 épisodes de Grey's Anatomy.
C'est quoi?
We'll do it all, chasing.
Ah oui, ok, ouais.
Tu
genre,
vois.
Ouais.
Très mélo.
Ouais.
Très mélo. J'écoutais beaucoup de trucs comme ça. Après de la pop,
chialade, quoi.
Britney Spears à mort. Ouais. J'étais un fan de Britney de ouf. Toujours aujourd'hui.
Ok. En mode poster, concert.
Lady Gaga, oui. Lady Gaga de ouf. Mais après, les Disney Channel, je me cachais un peu.
J'avais ça pour Rihanna.
Ah ouais, pareil.
J'ai fait un stade de France, je suis arrivé à 8h du mat. Quoi.
Ah ouais, j'ai jamais fait.
Ah oui, en mode concert, ouais.
Ouais. C'était fou. Et une fois, Rihanna m'a bousculé au concept store Colette. Et elle m'a dit, excuse-moi, j'ai dit, mais marche-moi dessus. Mais pas de galère.
J'ai dit ça à Pedro Almodovar. Il m'a écrasé le pied. Il m'a dit, ah, pardon. J'ai dit, non, mais tu peux marcher sur l'autre.
Bah, bien sûr. Et toi, Johanna?
Camp Rock
aussi.
Bah,
je t'ai vu un peu sourire.
Ouais, Camp Rock. Bah, en fait, j'avais un pyjama Camp Rock et je regardais. Mais j'écoutais les chansons, mais j'étais pas fan de sa mère, mais juste. Ça m'a accompagné beaucoup. Sinon, moi, j'écoutais grave Katy Perry. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, le premier album, genre, en mode un peu rock, bizarre. Rock pop.
C'était quoi, Teenage Dream? Non, c'est après ça.
C'était l'album d'avant. Ouais.
Ok.
Ouais. Ça, Teenage Dream aussi de ouf. Et non, j'ai grave écouté Lady Gaga. J'ai grave écouté Mylène Farmer. Après, j'ai écouté.
Mais Mylène, je trouve que ça se ressent dans vos projets.
Ouais.
Commun d'ailleurs.
Ouais.
Mais j'adore Mylène.
Ouais,
est-ce que vous avez déjà vu le live de Mylène à Bercy en 96 où elle est tout en Paco Rabanne, argentée?
Je pense que j'ai déjà vu des.
Il y a moyen,
c'est
ouais.
C'est complètement insane.
J'ai vu tellement de live de Mylène.
Non, mais
c'était pour
l'album
Anamorphosée qui est déjà incroyable. California, tout ça, là.
Ouais.
Et c'est fou furieux.
Non, mais.
Ouais, tu vois, quand tu vois Mylène, je comprends pas.
Pardon. Comment c'est fait pour être mainstream?
Non. Ouais, mais surtout, comment. Ah. C'est chiant ce que je veux dire. Comment on en est là aujourd'hui dans l'industrie musicale en France? Parce que elle est venue apporter quelque chose qui a eu tellement de succès et qui était tellement.
Oui, mais elle s'est fait. En vrai, il y a plein de gens qui la détestent.
Ouais, mais ça a marché quoi. Et ça aurait dû.
C'est quand même une faille dans le système quoi.
À l'industrie musicale, ça aurait dû leur faire dire quelque chose, mais.
Mais non. Non.
Quel dommage.
Écoute.
Ce sera nous.
Mais d'ailleurs, je pense que les identités, et je voulais en parler, aussi multiples qu'elles puissent être, dans leur féminité, dans leur queerness et tout, sont très célébrées dans vos créations. Et c'est aussi pour ça que les mots comptent, que les productions expérimentales comptent, que l'image est aussi une manière d'incarner une certaine société. C'est une culture un peu flamboyante, pour le coup. Est-ce que créer et s'incarner soi-même, c'est politique?
Totalement.
Oh bah oui. Aujourd'hui, ça peut que être politique et militant. Dans cette société, dans ce pays, c'est politique. Et on n'a pas le choix. Et je veux bien, j'arrive de moins en moins, mais j'arrive encore à comprendre le discours de vouloir justement pas incarner quelque chose de politique, mais de faire.
Mais c'est pas possible.
Même si tu ne veux pas le défendre avec militantisme. Quand tu incarnes la liberté, quand tu incarnes la queerness, quand tu incarnes la féminité, c'est politique aujourd'hui.
Totalement.
Ce sont des, des gens qui n'ont pas de liberté totale dans cette société.
Y a-t-il des moments où vous êtes excusé d'exister et est-ce que c'est toujours le cas parfois?
C'est grave dur.
Bah moi et toute
toute ma vie aussi.
Non, je pense que ça fait un an que j'ai arrêté de m'excuser d'exister.
On a le même timing.
c'est dans mon histoire de mon identité aussi que forcément je me suis beaucoup excusé d'exister jusqu'à mon coming out. Après le coming out, il y a quand même un bon 6-7 ans à déconstruire la carapace sociale que j'avais créée pour survivre à l'enfance, à l'adolescence, à l'école. Faut arracher la peau, quoi. Parce que c'est, je suis pas cette personne, je le sais, je le sens. Pourtant, j'ai fait mon coming out. Qu'est-ce qui se passe? Même après mon coming out, je crois que j'avais encore parfois des pensées un peu, homophobe, presque folophobe.
C'est un process.
C'est un process tellement long, tellement dur. Des fois, je digresse un peu, mais des fois, j'aimerais qu'on nous accorde ce temps-là aussi à nous, les personnes queer qui font ce travail, parce que c'est difficile de traverser ça et en même temps d'avoir des projets, de travailler, de construire sa vie. Et moi, ça a été très long. Pardon, je suis un tout petit peu émue.
Mais
ouais, je comprends.
Parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, du coup j'ai pas l'impression d'avoir eu le même timing que les autres
Non, faut pas comparer.
Non, c'est sûr. Mais enfin bref, voilà. Du coup ouais, ça, je pense que ça fait un an que je me sens très libre d'être la personne que je suis et très bien aussi et je m'excuse plus du tout d'être là. C'est passé par la colère aussi. J'ai été très en colère, je le suis encore aujourd'hui, mais c'est ma plus grande amie aujourd'hui, cette colère, parce que avant je me l'autorisais pas, alors que j'ai le droit d'être très fâchée. Et voilà,
c'est trop beau ce que tu dis.
Je suis en train de pleurer,
je suis grave
parce que je relate à 100%. Ouais.
Ouais. Bah moi aussi d'une certaine manière je relate de ouf aussi je pense que moi quand je commence en fait plutôt depuis un an à entamer le processus. Donc j'ai encore 6-7 ans. Non, je suis vraiment en mode ouais, je commence à plus m'excuser, mais j'ai toujours des moments où je m'excuse d'être là parce que j'ai l'impression que parfois il y a pas de place. Enfin on te donne l'impression qu'il y a pas de place ouais, pour être différent, pour être et moi toute ma vie je me sentais différente et j'ai jamais trop eu accès à d'autres personnes différentes jusqu'à un certain âge et ouais, ça prend du temps. En vrai ça prend du temps
et c'est jamais aussi vraiment fini, parce que
ouais,
moi parce que je suis pas du tout au bout d'un processus de découverte, j'ai encore beaucoup de choses liées à mon identité aussi.
Ça finit jamais,
une fois que t'as fini le processus, t'es genre ah,
ça redémarre.
Le genre ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Ouais,
je suis véritablement un homme, I don't know. Donc, mais c'est plus doux maintenant, ça va. J'ai traversé déjà suffisamment pour savoir que déjà on s'en sort, on va mieux à un moment donné. Donc c'est important de faire l'expérience de la guérison aussi, au moins un endroit pour se rendre compte qu'après tous les chemins ils mènent à ça. Et donc, c'est moins douloureux.
Tu peux tout affronter.
Ouais, c'est ça. Comme les ruptures. À la première rupture, on a l'impression qu'on va jamais survivre. Mais la deuxième, on est en mode genre, ah, je sais que c'est dur, je sais que c'est douloureux, mais je sais aussi qu'en fait, ça va aller. Quoi.
C'est quoi votre définition de la flamboyance?
Pour moi, personnellement, c'est la queerness d'être flamboyante. Après, dans la queerness, évidemment, je mets la liberté. Peut-être qu'être flamboyant, pour moi, c'est être libre. Et du coup, un peu briller de cette liberté.
Ouais. C'est beau.
C'est beau. Ouais. Pour moi, la flamboyance, c'est genre incarner la passion, genre vibrer d'être soi et d'être libre. Et en gros, c'est fierce de ouf pour moi, la flamboyance, fierce. Ouais.
Je reçois beaucoup de drag dans Flamboyante, de base. Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de Drag Race France?
Yes!
Ok. Vous aimeriez être invité dans le jury?
Grave, mon rêve.
On lance un petit...
Invitez-nous, mes belles.
Ok. Mais oui, ce serait quoi votre nom de drague?
Alors, attends, moi, j'en avais un. attends. Ouais, c'est un
caméra obscura.
J'avais un truc genre...
Mais c'est pas mal, cette caméra obscura.
Ce qui me perd, c'est que je crois qu'il y avait flamboyante dedans.
Ah, mais ça, c'est sublime, si tu me dis ça.
Flamboyante, glamazone, un truc.
Oh, waouh.
Ouais, je crois que c'était un truc. Okay. 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 Et elle, c'était Arroganza, parce qu'elle est super, elle était super arrogante. Arroganza something, glamazone, oui, bien sûr.
Peut-être qu'on tient quelque chose. Moi, je suis content que vous soyez là, parce que j'ai de plus en plus envie d'évoquer un aspect de la flamboyance qui s'insère un peu dans le sensible, parce que je trouve que parfois, on oublie que le sensible, c'est hyper flamboyant aussi. Et j'ai l'impression que la sensibilité et la vulnérabilité sont pas mal mises en avant chez vous, dans votre travail. Qu'est-ce qui vous rend sensible?
Ben, tout. Exister. J'ai l'impression que la sensibilité, c'est un chemin qui s'est fait entre physiquement ce que tu peux ressentir avec tes émotions et ta vision des choses. Et je pense que ça naît aussi peut-être de l'enfance, de... Ouais, je sais pas, c'est ton rapport à... Enfin, moi, pour moi, ma sensibilité, c'est vraiment ma... Comment dire? C'est une fine couche qu'il y a autour de moi et qui, en fait, est touchée à la fois par ce qu'il y a de l'extérieur et à la fois parce que moi, j'émane de l'intérieur. C'est vraiment genre une membrane, quoi. Et elle est très très fine pour ma part.
Ouais, je confirme.
Et vous pensez qu'on est avec?
Oui, j'ai envie de croire que tout le monde est avec beaucoup de sensibilité. Après, je pense que l'enfance, elle est très importante pour la sensibilité et qu'elle peut s'éteindre à ce moment-là. Ça se rallume. Moi, je pense qu'il y a vraiment un moment de ma vie où j'étais plus sensible du tout. Mais parce qu'il fallait tout éteindre vu que j'avais rien travaillé de tous les traumas et tout ça. Et j'ai ouvert la porte hyper violemment il y a 3 ans. Mais c'est... Je sais pas, comment on peut dire? C'est doux amer la sensibilité, parce que des fois,
ouais,
c'est trop beau, faut savoir la gérer, ouais.
Ouais, en fait, c'est une relation aussi. Enfin,
ouais.
Ça peut être... En vrai, ça peut être handicapant d'être sensible, surtout quand... Dans le monde d'aujourd'hui, là où... Enfin, là, en plus, on habite dans une capitale.
Ouais.
Y a plein de gens, il y a plein d'énergies différentes. Il se passe des choses de plus en plus sombres dans le monde et c'est dur d'être sensible en vrai. Et en même temps, je pense que c'est une énergie que tu peux transformer en force pour nourrir des choses en toi, pour vivre ta vie. Et enfin, voilà, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un vrai moteur.
Mais ça vaut le coup, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est un truc d'humain, enfin, je sais pas, genre.
Ouais, c'est ça. Puis je pense que dans nos travails, c'est un moteur nécessaire.
Ouais, c'est ça.
Enfin, dans l'art, en tout cas, moi, ce qui n'est pas sensible me touche pas du tout.
Ouais, pareil.
Est-ce que vous avez déjà dévié de cette création authentique? Est-ce qu'il y a des moments, que ce soit par peur, insécurité, doute, ou alors par quête du succès, ou parce que l'industrie?
Moi, je me souviens de m'être posé la question, vraiment, moi et moi-même, dans mon appartement, à un moment après mon premier EP, quand il est sorti. Et après, des remarques aussi. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une musique à laquelle je serais pas sensible, mais qui va marcher? Ou, enfin, qui aura plus vocation à marcher dans l'industrie française? Ou alors, est-ce que je vais à fond dans ce que je voudrais vraiment sincèrement faire, encore plus que ce premier EP. Et je fais le deuil un peu de, en tout cas, un parcours assez simple de playlist radio, radar Spotify. Et j'ai fait le choix de rester authentique parce que je sais que j'arriverai jamais à défendre sur scène, qui est vraiment l'endroit sur lequel je défends, une musique que j'aime pas.
Mais d'ailleurs, je me souviens, je crois que tu m'avais raconté, je crois que t'en parles sur scène, que ton titre Cherry Pop, personne ne voulait que tu le sortes.
Personne.
Pourquoi? Et pourquoi tu y as été surtout après, du coup?
Le label voulait pas. Après, moi, j'étais certain de ce titre, mais vraiment. Et j'ai un peu forcé pour le faire sur scène. Donc, je l'ai fait sur scène. Et il y a eu un tel truc qui s'est passé dans la salle du public, mais aussi de mon équipe qui a compris la chanson une fois qu'elle avait été jouée sur scène. Et c'était un genre, ok, d'accord. Et je crois que ça a été un peu un tournant aussi dans nos rapports. Après, j'ai plus tout à fait cette même équipe-là. Et c'est le moment où aussi il y a une confiance qui a été donnée sur la valeur artistique, mais aussi la valeur de stratégie aussi.
Mmh.
Je savais qu'il fallait sortir cette chanson.
Oui, enfin, c'est l'intuition, genre.
Ouais.
Toi, Johanna, t'as dû souvent te battre pour suivre ton intuition.
Ouais. En fait, déjà, c'est un combat intérieur parce que comme j'ai... Enfin, moi, comme chérie aussi, j'ai eu ces réflexions. Peut-être que je les ai même... Enfin, la décision est prise dans ma tête. Évidemment, c'est la même que toi, c'est suivre mon authentique. Enfin, être authentique. Enfin, de toute façon, je peux pas faire autrement.
Mmh.
Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question parce que, voilà, il y a des trucs extérieurs, il y a envie de reconnaissance, il y a envie de que le travail qui a été effectué soit un minimum pris en compte par l'industrie de la musique, parce que par là il y a aussi un moyen d'expandre le public, toucher encore plus de gens et de gagner sa vie aussi, parce que voilà. Et en fait plusieurs fois ça m'est arrivé de pas suivre mon intuition sur certains trucs, et en fait je me suis toujours repris le truc et ça n'a jamais été bénéfique pour moi, et donc bénéfique tout court, parce que si pour moi c'est pas bénéfique, ça ne l'est pas, en fait. Enfin, c'est pas possible de défendre quelque chose qui te correspond pas, c'est toxique, en fait. Enfin, moi c'est pas possible de prétendre, enfin, je sais pas, genre,
ouais.
Non, enfin, c'est pas possible. Donc, maintenant, moi, depuis, surtout avec le dernier album, j'ai que suivi mon intuition sur le choix des singles, la stratégie, l'image, voilà. Enfin, tout a été fait avec mon intuition, et j'ai bien fait je pense que j'ai bien fait.
Ouais.
Oui, à la fin, moi, elle est d'autant plus fière, d'ailleurs.
On
n'a pas fait de concession.
Non, tiens, même malgré les... Parce que souvent aussi, quand on prend cette décision, c'est...
Ouais, t'es tout seul. 4
fois sur 5, des coups d'épée dans l'eau aussi, parce que...
Non, je suis pas d'accord. En fait, sur le moment, t'as l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau, parce que y a pas un effet, parce que nous, notre intuition, elle est pas marketing. Enfin, la plupart du temps, c'est pas marketing. Mais par contre, je pense que le fait de suivre son intuition, ça construit quelque chose de solide dans le temps, qui fait que t'as des vrais piliers et tu construis ta carrière et ta fanbase et ton art de manière beaucoup plus solide.
Chérie, qu'est-ce que Johanna a de plus flamboyant?
Son talent.
Très bien. Merci, ma belle.
Johanna, qu'est-ce que chérie a de plus flamboyant?
Attends, ça me stresse. Parce que j'ai plein de mots qui me viennent dans ma tête. Il faut que je trouve le bon. Franchement, en vrai, c'est tout. Non, mais tout de toi. Genre tout. Genre ta manière de t'incarner dans les aspects de ta vie. Dans tes combats, dans ta musique. Dans tes amitiés, enfin, je sais pas, voilà. Je sais pas comment dire, mais c'est trop beau.
Pas moi pour pas pleurer.
Fin chialade, hein, de... Question très feel-good et rapide.
Allez,
ouais.
Qui est la plus grande pop star de ces dernières années et pourquoi Rosalia?
Ouais. Non, mais c'est ça, c'est tout.
Punta. Ah, punta. Ouais.
Vous l'avez déjà vu sur scène?
Non, mon rêve.
3 fois.
Quoi?
Je l'ai vu 2 fois, c'est... Oh. Tu l'as vu où?
Je l'ai vu à Willow Green, je l'ai vu à Playel,
je
l'ai vu à... Merci.
J'ai été à Willow Green, qui était la meilleure édition de Willow Green, hein. Il y avait vraiment toute la terre entière.
C'est l'année où j'ai
des... Christian de Queens, Lolo Zouai...
FK Twigs,
c'était fou.
Ma plus grosse claque de ce festival.
Rosalia, c'était fou. Et je l'ai vu à la salle Playel. Aussi.
Trop bien.
Et ça, c'était aussi incroyable. Ouais. Et à Primavera cet été.
Aïe. T'es allé à Primavera?
Oh oui, j'y retourne cette année en plus.
Oh,
c'était non. Assez fou. Non, mais c'était assez fou. Bah, venez!
Mais faut qu'on dise.
Venez, on y va ensemble. C'était assez fou. Il y avait Rosalia, c'était incroyable, parce qu'en plus, elle vient de la banlieue barcelonaise, donc il y avait vraiment tous les gens locaux étaient là. C'était un peu leur resta, quoi. C'était leur moment. Donc, c'était assez fou en termes de communion. Et Caroline Polachek, c'était fou furieux, parce que c'est ma passion.
Oh my god, moi je l'ai vue à la salle Playel, j'ai pleuré, genre c'est trop.
Et moi je l'ai jamais vue.
Moi j'ai jamais réussi à avoir tout la fin à
la salle Playel.
C'est parfait.
À Playel, je n'y suis pas allée parce que j'étais en session studio qui se passait trop bien.
Non, je rigole.
Bah non, mais ça va.
Attends,
ça valait le coup.
T'as vu la perfection, genre. Ouais,
bah non, mais elle est incroyable. Non, mais c'est vraiment ma ref en termes de là les termes de prod pour moi la référence c'est Caroline Bachelard. Ouais, je trouve que c'est trop.
Mais je pense qu'aujourd'hui
les espèces de synthé. Oui, ouais. Mais bien sûr.
En même temps, franchement, il y a pas longtemps là, j'ai réécouté son album Peng.
Ouais.
Mais en fait, elle est trop smart. Enfin, là, ses textes et comment c'est, je sais pas, genre.
Ouais. L'approche est folle, ouais.
Mais enfin, en
et
fait,
très singulière.
Genre, c'est parfait. Enfin, je sais pas, genre.
Voix.
La maîtrise.
Cette voix, en fait, moi, j'ai tout de suite accroché Caroline Polachek parce que sa voix, et d'ailleurs, elle a fait une reprise de Scoop. Ça m'a tout de suite amené à un truc d'enfance où mes parents, ils écoutaient beaucoup The Corrs. Est-ce que vous voyez ce groupe irlandais?
Je connais pas du tout.
Ah ouais, putain.
Ouais. Mais ça faisait genre.
Go on, go on, leave me breathless.
Elle l'a repris en plus, ouais. Celle-là.
C'était mes highlights de Primavera avec Christina and the Queens. Dont le dernier album est incroyable.
Moi, je l'ai écouté cet album. J'étais sur la plage en Espagne. J'ai mis dans mes oreilles.
Ouais.
Et je suis parti, mais en méditation presque. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage astral.
Bah, c'est deep. Mais on en revient, je crois, à la perception que j'en ai. Et c'est ce qu'il dit aussi quand il prend la parole. On en revient à l'authenticité de la création, quoi.
Ouais.
Enfin,
mais c'est,
là,
c'est,
tu
c'est
sens
vraiment
la
ça, le mood, quoi.
Oui.
Mais c'est un très, c'est un parcours qui. Merci d'ouvrir ce ouais, voie, ouais. En fait. Genre, merci.
Oui, en plus il incarne depuis le début une espèce de
ouais.
de façon de concevoir la musique qui a ouvert la voie à plein d'artistes derrière.
C'est fou.
Voilà, c'était un petit shout out à Chris.
Shout out.
Je veux absolument que Red soit dans Flamboyante d'ailleurs. Comment vous pensez d'ailleurs respectivement l'un et l'autre la direction artistique, l'image, les couleurs qu'on prend de vos projets, la vidéo?
Moi, ça vient un peu dans quand je fais la musique. Enfin, en fait, ouais. Quand j'écris et quand je suis en plein processus de création, j'écris dans un carnet mes idées, les images qui me viennent, l'univers que j'ai dans la tête quand j'écris les textes. Et ensuite, une fois que c'est fini, en fait, je reviens à ça et en fait, généralement, je fais ce que j'avais en tête déjà dès le début.
Tes premières intuitions sont souvent les bonnes.
Ben ouais, ouais je crois.
Mais les images qui viennent en
c'est
studio
ça, ouais.
Aussi, elles sont importantes.
Oui, parce que en fait, c'est des images que tu crées avec l'émotion que tu mets dans ta voix.
Ouais.
Et je sais pas, et en fait, ça va ensemble. Parce que si t'as ressenti ça quand t'as chanté, et que l'émotion qui ressort de la chanson correspond à des images que t'as eues dans la tête, si tu les fais en clip, forcément, il y a...
Bingo.
Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai grave ça.
Après, aussi. Des fois, si c'est des moments, genre, pour une DA plus globale d'un album ou une idée aussi globale, ça vient, je sais pas si ça te fait ça toi-même, ça vient à un moment, genre, trop bizarre, genre, pas du tout opportun, des fois.
Mmh.
Je suis en train de lire un livre et d'un coup, l'idée monte et toi,
ouais,
genre, et puis, ouais. Alors, c'est vraiment le moment où tout se débloque et tu commences à bosser pendant 4 heures.
Ouais.
Tu vas faire un mood board et tout vient d'un coup et toi, genre, ah!
Et après, c'est
pas. T'arrives même plus à les traiter, genre.
Ouais, non, mais c'est ça.
Ça.
Des fois, t'as un trou pendant genre 3 mois en mode. Tu sais pas où tu vas, genre, avec ta DA et tout, et puis d'un coup, hop. Genre.
Ouais, tout se débloque.
Les éléments clés se débloquent, quoi.
Mais alors, ça c'est intéressant parce qu'on va y venir, c'est-à-dire que dans Cherry Pop, Journal de Création, qui est un podcast produit par Laura Larman, qu'on salue grandement et qu'on connaît tous ici, où tu reviens là sur la création de ton EP, tu dis ces mots, je te cite, j'étais très triste à ce moment-là. Enfin, non, tu reviens pardon sur Torrent de larmes,
ouais.
Qui est votre feat. Et tu dis, j'étais très triste à ce moment-là. Johanna aussi, et Lino Vella, qui a co-composé le morceau également. Ça m'a guéri de travailler avec Johanna. J'ai été à un moment de la création où je n'arrivais à ne plus rien écrire et je me suis rendu compte que chacun avait sa méthode. Et ça, c'est toujours intéressant, ce que vous parliez quand les choses se débloquent. C'est toujours intéressant d'entendre ce processus. Moi, je sais que personnellement, par exemple, j'ai vraiment des périodes où c'est hyper compliqué d'aboutir à quelque chose, de poser des mots, d'avancer sur un projet. Et j'ai du mal à avoir une méthode justement pour me dire « Ok, là, tu vas réussir, c'est le moment, tu t'y mets et ça va y aller. » quoi. Et je crois que parfois, effectivement, ça arrive dans des moments un peu imprévus. C'est vrai, hein. On n'a pas forcément le contrôle en
ouais,
fait de ce qui émane, ce qui sort.
Tu lâches prise en fait, parce que tu penses à autre chose.
C'est quoi votre process de création à chacun de vous? Est-ce que c'est toujours le même d'ailleurs? Est-ce qu'il est, je sais pas, solitaire, collectif? Est-ce qu'il arrive la nuit, le jour?
Ben moi, j'ai vraiment pas de process. À part peut-être un peu plus en studio maintenant, mais parce que je sais ce qui fonctionne mieux pour moi, mais pour compléter ce que j'ai dit, parce que je voudrais compléter ce que j'ai dit.
Complète.
Parce que je suis pas allée au bout. De... enfin, un an plus tard, disons que, en fait, pour moi, le fait que tout le monde ait sa méthode, ça veut dire ça s'annule, en fait. Moi, ça veut dire que la méthode n'existe pas.
Mmh.
Et que, du coup, c'est que inné, c'est que comme toi, tu fais. Qui est ta méthode, du coup, de facto.
Il y a genre zéro bonne façon, quoi.
Voilà, il n'y a pas de bonne façon de faire.
C'est comment toi, tu...
Il ne faut surtout pas utiliser la méthode des autres aussi, du coup, parce que ce n'est pas la tienne, c'est sûr et certain. Et c'est ce que ça m'a apporté de travailler avec Johanna. Johanna, c'était le premier feat que je faisais, donc ça m'a marqué. Et ensuite, j'ai travaillé avec Chilla, j'ai travaillé avec Lord Esperanza, Kalika, et même les autres compositeurs avec qui je me suis retrouvé en studio, ou des amis qui me parlent de comment ça se passe. On travaille, aucun ne travaille de la même façon. Aucun. Et c'est beau à regarder aussi, c'est beau être témoin de ça, parce que du coup, moi, ça m'a beaucoup calmé. Je me posais énormément la question de la méthode. Genre, j'en ai aucune.
Ouais, est-ce que t'es assez efficace?
N'importe quoi, ce que je fais. Et ça n'a pas de sens. Et de toute façon, personne va comprendre ma musique. Enfin, alors qu'au final, non, c'est, faut vraiment se calmer, globalement. Donc, faut lâcher prise.
En fait, c'est la conclusion de tout l'épisode, c'est de lâcher prise.
Non, mais vraiment,
franchement. C'est souvent ça le problème.
Vraiment, putain, j'aimerais tellement.
Grave.
En plus, il y a tellement de fois où on nous l'a dit. Mais lâche prise. Mais calme-toi. Et en fait,
c'est pire.
La personne. Non. Quand tu fais pas ta propre expérience de ton lâcher prise et de ton calme.
Bah, en vrai, ouais, là, pareil, moi, j'ai pas de méthode, mais j'ai un pattern. Enfin, je reproduis toujours le même truc. Par exemple, quand je sais que genre, par exemple, je me dis, ah là, il faut que je fasse un projet, je sais pas quoi, ou que j'écrive un son, ou que je finisse cette compo que j'ai commencé, non. Et quand je suis vraiment en mode, je m'acharne et que j'y arrive pas, ça marche pas du tout. Et donc, je sais pas pourquoi, la vie fait que j'ai une opportunité de faire quelque chose pour quelqu'un ou d'autre, ou m'occuper d'un. Rien à voir, pas moi, genre juste focus sur quelqu'un. Et bah, je reviens 2 jours après, j'écris 3 chansons.
Mmh. Ouais.
Parce que j'ai lâché prise sur la volonté d'avancer sur le truc, mais je m'en suis même pas rendu, mais sans me rendre compte, c'est ça aussi. il faut mindfuck ton cerveau pour pas qu'il comprenne. Que tu lâches prise, c'est n'importe quoi.
Mais
c'est vraiment ça. Et sinon, bah après, non, moi j'ai pas de méthode, elle change tout le temps. Enfin, maintenant je compose et j'écris avec juste une ligne de mélodique. Et puis j'écris 2 semaines après, en fait, je finis. Des fois je fais tout d'un coup. Puis après je reviens dessus, en fait j'ai tout enlevé, je refais tout. Franchement, c'est pas.
Ça vous arrive.
Moi j'ai tout bêtement, d'un projet à l'autre. Toi.
Mais c'est parce qu'avant je composais pas. Je faisais une top line efficace. Enfin, il fallait qu'à la fin de la session, il y ait un morceau, quoi. Donc, c'était un peu. Ouais, c'était genre en mode méthode rap, quoi. Mais aujourd'hui, je prends vraiment le temps de, bah, moi, poser les accords. Et donc, j'ai le temps, mais du monde pour chercher la mélodie et les mots. Et en fait, forcément, ça change tout, quoi.
Et les textes, parfois, ils viennent avant la prod? C'est rare. J'ai l'impression que c'est super rare.
Ouais.
Toi, t'as grave ça, ouais.
Tout mon premier EP, un peu du deuxième, j'avais tous les textes dans mon téléphone, parce que j'écris beaucoup de poésie et donc j'écris ou un journal et j'écris sur mon tel dans mes notes. Et du coup, après, quand j'étais en studio, que j'avais une mélodie, j'allais chercher dans ces textes-là. Maintenant, ça a un peu changé. J'écris en studio ou j'écris aussi après. Je me fous plus trop la pression. À sortir du studio avec une chanson. Avant, j'avais besoin que ça.
Ouais, ça sert à rien.
J'avais besoin d'aller en studio et après ces 6 heures de studio, je ressortais avec une chanson. Sinon, j'étais pas. Mais là, aujourd'hui, non, je m'en fiche. Je pose une mélodie. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Envoie-moi la mélodie, j'écrirai le texte chez moi parce que je me sens mieux à écrire chez moi. Je prends plus de temps maintenant.
Et quand c'est un texte que t'as déjà, tu arrives en studio en mode j'ai envie qu'on trouve comment mettre en musique ce texte, ou tu fais une prod et tu penses à un texte que tu avais déjà écrit?
On fait ça. On fait une prod. Les accords vont me donner plus une couleur de texte, et du coup, je vais aller chercher dans un truc où je sais que ça passera mieux.
Mmh. Du coup, tu le retravailles, non?
Parce que,
alors moi, j'écris un peu secrètement, je fais des trucs dans ma chambre encore. Mais, par exemple, en fait, j'ai une aisance à écrire. Alors qu'en fait, je suis pas du tout un nerd de la prod, donc je galère de ouf, tu vois, mais c'est normal, c'est le process, quoi. Et au final, quand j'arrive à un truc qui je trouvais une prémisse d'un truc un peu cool, quand je veux poser un texte que j'ai écrit dessus, en fait, je dois tellement le retravailler. Enfin, ouais. Parce que, en fait, oui. La phrase rentre pas. Généralement, c'est beaucoup trop verbeux. Ouais. Et on raccourcit. Ouais, enfin, moi, je raccourcis beaucoup. Mm-mm. Tu vois, parce que j'écris beaucoup au démarrage. Et en fait, ça rentre pas, quoi.
Ouais. Ça fait comme un entonnoir, mais du coup, t'as l'essence de ce que tu voulais dire.
Je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Dans cette façon de travailler. C'est que, du coup, tu charcutes un peu, mais ne reste que ce qui compte.
Ouais.
Citez-moi un film qui vous inspire.
Moi, c'est Checking Express de Wong Kar-wai.
Ok, que je ne connais pas du tout, que je vais aller découvrir.
Oui, c'est incroyable.
Moi, c'est...
Camp Rock.
Twilight.
Grave.
Non, moi, c'est... dans l'esthétique qui est en train de m'inspirer beaucoup, c'est Suspiria.
Ok.
Putain, j'ai toujours pas vu, j'ai peur de le regarder toute seule.
Il est trop badant.
Ouais.
Après, okay. Anything avec Tilda Swinton.
Incroyable. Iconique.
Enfin, c'est l'actrice qui a la carrière la plus, genre, parfaite.
Ouais.
Je regarde pas un film avec elle où je suis genre, oh, tu la bof. Même Narnia, je j'adore Narnia.
C'est trop bien Narnia, en vrai.
Oui. Oui.
Et puis, j'ai montré un film. Ah, mais tu l'as pas regardé, toi. Je vous ai montré un film au Nouvel An, mais t'étais fatiguée. Mon film préféré, c'est The Hours. Oui. Avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman. Ah, ça parle tellement, tellement magnifiquement des femmes et de l'enfance. Enfin, c'est sublime.
Qui aimeriez-vous entendre à mon micro ? Ça peut être personne parce que l'interview était claquée au salon.
C'est complètement... Du coup, Redcar.
Ouais, ah, ouf.
Clairement.
Ouais, entendre Redcar parler de processus artistique.
Ouais, ouais. Et on pourra continuer de parler de lumière.
Ouais.
J'aimerais entendre Sophie Kahl à tout.
Bien sûr, ça serait sublime. Merci Johanna, merci chérie.
Merci.
C'était bien, on était doux aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté Flamboyante. J'espère que vous avez aimé la discussion. Je remercie encore chérie évidemment et Johanna d'être venue. On peut la continuer sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour bien sûr recevoir la notification du prochain épisode. Partagez-le à balle, j'en ai besoin. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application. Ça aide grandement la visibilité du projet. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Un camion passe. Je suis sûr que ça va niquer ma prise. Tant pis, je la laisse comme telle. Bisous.